Et si la nature allait finir par se venger de nous, le nouveau livre d'Émeric Caron est une alerte. La revanche de la nature, paraît chez Albin Michel. Émeric Caron, vous êtes un enfant des années 70, époque où la conscience écologique n'avait pas encore réellement émergé. Quand avez-vous commencé à militer ?
De manière tout à fait objective, j'ai pris une carte d'un parti politique qui était Les Verts à l'époque. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Donc j'ai eu envie de m'engager sur ces questions-là assez tôt en réalité. Puisque là, on est dans les années, on est en 89, 90, quelque chose comme ça, 88 peut-être, 88. On est à un moment où l'écologie politique commence vraiment à émerger en Europe, mais en France notamment. Et oui, ça m'intéresse très tôt, dès que je suis adolescent, je m'intéresse à ces questions. Après, il y a la question animale qui est encore un autre sujet, même si bien évidemment c'est complètement lié. Et puis ensuite, je vais mettre un peu ça de côté pendant une vingtaine d'années. Je vais me consacrer entièrement à mon travail. Je continue à militer, mais dans une sphère purement privée, puisque mon militantisme consiste à adopter des comportements personnels.
Oui, c'est ça, par compassion, en fait, vis-à-vis de la cause animale. Oui,
voilà, donc je ne mange plus de viande, ça, mais je le fais à chaque fois de manière extrêmement discrète, je n'en parle pas autour de moi, donc ce n'est pas vraiment du militantisme. À ce moment-là, je ne cherche pas à convaincre mes amis, mes proches, encore moins mes collègues. Donc,
et à un moment donné, il y a un événement fondateur ?
C'est le hasard. En réalité, un jour, on doit être en 2006-2007, je cherche un sujet, je suis journaliste, reporter à l'époque, et je dis, tiens, il y aurait peut-être quel pourrait être un beau sujet de documentaire ? Et je tombe sur un petit entrefilé dans un magazine qui explique que toutes les terres cultivables aujourd'hui sont utilisées en France, enfin dans le monde d'ailleurs, et qu'on n'en a plus à disposition et que ça pose un vrai problème, notamment en ce qui concerne la viande, puisque une grande partie des trois quarts des terres aujourd'hui cultivables sont utilisées pour faire pousser de la nourriture pour le bétail. Oui. Donc, ce petit entrefilé disait qu'il allait y avoir bientôt un problème, puisque non seulement on n'avait plus de terres pour cultiver la nourriture destinée au bétail, mais que par ailleurs, la FAO prévoyait une augmentation de 100% de la consommation de viande d'ici 2050. Et là, je me dis, ah oui, il y a un vrai, vrai souci par rapport au fait de manger de la viande. À un moment, je me dis cette chose-là, à un moment où personne ne parle encore de ce sujet en réalité. Et à ce moment-là, moi, si je suis végétarien, je n'étais pas encore vegan, c'était en effet pour des raisons éthique, mais je n'avais pas englobé dans ma réflexion la question écologique et la question de l'utilisation des ressources nécessaires pour, comment dirais-je, pour élever toutes ces bêtes qu'ensuite on va manger.
Et puis une inversion de l'équilibre, parce qu'il y a de moins en moins d'animaux sauvages et de plus en plus, en fait, d'animaux d'élevage sur la planète.
Oui, parce qu'en termes de biomasse, on a calculé, il y a une étude qui a regardé ça.
60%, c'est ça ? Alors, on a d'animaux d'élevage ?
On a en effet 60% de la biomasse des mammifères aujourd'hui est constituée par les animaux d'élevage, contre 4% seulement par les animaux sauvages, et donc les 36% restants, ce sont les humains. Et pour terminer sur cette explication, sur la raison de mon engagement, donc à ce moment-là, c'est purement par un souci journalistique que je me dis, il y a un beau sujet à faire sur notre rapport à la viande et sur cette équation impossible entre le fait que de plus en plus de gens vont manger de la viande dans les années qui viennent et le fait qu'on n'a plus les capacités de ressources tout simplement pour créer, produire cette viande. Et donc, j'ai l'idée de faire un documentaire là-dessus, que tout le monde me refuse à l'époque. Je vais voir plusieurs producteurs qui se moquent de moi parce qu'effectivement, c'est un documentaire qui souhaite mettre en avant le végétarisme, en tout cas les vertus du végétarisme. Et là, le mot végétarien fait déjà rire quand j'arrive dans un bureau de producteur. Et je laisse ça de côté. Et en 2010-2011, à ce moment-là, je suis sur Europe 1. Hein. Oui, c'est la petite histoire. si, vous allez voir, vous allez comprendre l'histoire. Et à ce moment-là, j'enregistre des chroniques régulièrement, toutes les semaines. Je suis le partenaire de chronique de Jacques Attali.
Oui.
Et Jacques Attali et moi, à chaque fois que l'enregistrement est terminé, on prend un thé. Et on discute toujours un quart d'heure. Et pendant l'une de ces conversations, un jour, je lui dis « Mais vous savez, Jacques, de toute façon, un jour, on sera tous végétariens. » Et je lui explique l'argumentation que j'avais développée dans ce projet. Et Jacques me dit « Il faut que vous écriviez un livre là-dessus. » Et Jacques va m'aider à écrire ce livre qui s'appelle « No Steak » et qui sortira 2 ans plus tard. M'aider dans le
dites
sens...
donc, c'est pas mal d'être adoubé par Attali, tout de même.
Voilà, et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvé à écrire ce livre « No Steak » et à devenir presque malgré moi un militant,
porte-parole.
Un porte-parole et un militant. Alors qu'au départ, c'était une démarche purement journalistique.
Alors justement, parlons du journalisme. Les études, Émeric Caron, les études de journalisme dans la fameuse école supérieure de journalisme de Lille, dont vous êtes sorti diplômé en 95. En fait, elle s'expliquait par l'envie d'aller vraiment sur le terrain, comme reporter de guerre, ce que vous êtes devenu, et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Ou bien, vous vous imaginiez plus comme un analyste qui signe des papiers, des éditos ?
Non, je ne me voyais pas du tout comme analyste. L'idée était vraiment, en effet, d'être reporter. C'est une idée que j'ai eue à 12 ans à peu près. J'étais devant la télé. C'était la guerre du Liban à l'époque. J'ai vu un envoyé spécial qui était à Beyrouth. Et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Je veux être reporter et reporter de guerre si possible. J'avais déjà assez tôt cette notion. Enfant, je me souviens m'être dit très consciemment, je veux un métier où je sois toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne voulais pas être dans un métier de la répétition.
On peut aussi apprendre sans se frotter forcément au danger. Reporter de guerre, c'est très particulier parce que je dois préciser quand même que vous avez couvert des conflits comme le Kosovo, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Irak. Donc, vous êtes vraiment parti sur le terrain. Est-ce que vos propres rédactions, qui elles étaient à Paris, avaient conscience de la réalité que vous traversiez quand vous étiez dans les montagnes afghanes ou dans les rues de Bagdad ?
Oui, c'était pour Canal+, et je travaillais avec des gens qui savaient extrêmement bien où je partais et ce que j'y faisais. Donc, c'était le boulot de reporter de guerre, comme le font beaucoup, beaucoup de gens. Et c'était passionnant. C'est l'une des périodes les plus passionnantes de ma vie sur le plan professionnel. Mais c'est très important pour moi. C'est l'une des périodes qui m'a constitué intellectuellement parce que j'avais envie, moi, très tôt, d'aller me confronter aux autres humains, à ceux dont on me dit qu'ils ne me ressemblent pas. Alors qu'en fait, vraiment, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller sur tous les continents et je peux maintenant vraiment attester du fait que tous les humains sont vraiment des cousins, des frères, quelle que soit la couleur de peau, la religion, la culture. En réalité, on est tous mus par la même énergie et on a, pour beaucoup d'entre nous, exactement les mêmes réflexes.
Et pourtant, vous alliez les voir alors qu'ils étaient en guerre.
Oui, c'est ça qui m'intéressait.
Vous alliez couvrir que des conflits.
Oui, mais ça m'intéressait particulièrement d'aller étudier les humains en période de conflit. Parce que je considère que beaucoup de notre vie sociale nous amène à avoir une personnalité qui est construite pour les autres dans certaines circonstances, mais que ce n'est pas forcément la réalité de notre personnalité qui s'exprime, et que dans des situations paroxystiques comme celle d'un conflit, c'est là que vraiment les âmes se révèlent. Donc voilà, et j'avais besoin, moi, de passer... faire 10 ans comme ça de reporter.
10 ans, vous l'avez fait.
Ou 8 ans, en tout cas, à peu près. Et j'avais besoin absolument de ça pour me construire en tant qu'être humain, pour mieux comprendre mes congénères.
Alors, d'autres caméras vous attendaient sur les plateaux des chaînes Info, avant de devenir polémiste dans l'émission de Laurent Ruquier. Entier, sans concession, c'est votre mantra. On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Aymeric Caron.